être plus proche de vous, RCN se délocalise.
Bonjour Elfenoul, on se retrouve pour la troisième édition de Talents au féminin. On est avec Pauline aujourd'hui à la mairie de Nancy.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a donc une conseillère en recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour, je suis la sergent-chef Laura, je suis conseillère en recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Oui, là, mon rôle, c'est de conseiller, d'informer, d'orienter les candidats qui viennent pousser les portes du recrutement pour l'armée de l'air.
Et vu que vous êtes conseillère en recrutement, c'est votre métier de base de faire tout ça. Est-ce que même dans la vie de tous les jours, c'est compliqué de recruter des femmes dans l'armée ?
Non, parce que du coup, dans l'armée de l'air et de l'espace, on a 25% de féminines. On est parmi les trois armées, l'armée terre, l'armée d'air et la marine. On est vraiment une armée la plus féminisée.
D'accord. Et dans tous les métiers confondus au sein de l'armée ?
Oui, tout à fait, oui.
Okay. Et comment vous faites aujourd'hui pour combattre justement ces clichés-là et inciter plus de femmes à venir dans ces métiers de l'armée ?
Eh bien justement, c'est là où c'est principalement mon rôle. En étant une femme, justement, je casse un peu les codes de tout ce que les personnes pensent.
Et donc aujourd'hui, vous êtes là donc, pour recruter de nouvelles personnes ?
Oui, tout à fait, oui.
Et lorsqu'on s'engage pour l'armée de l'air et de l'espace, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors on a plus de 50 métiers dans 13 domaines différents, on recrute de niveau 3e jusqu'à bac plus 5 et plus. Et ce qui est vraiment un plus, c'est que nous, on recrute et on forme dans le métier. Peu importe la filière des candidats, on leur forme un nouveau métier.
Et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des craintes quand on rentre à l'armée, de faire des choses trop sportives ou je ne sais pas, des choses... La guerre, par exemple, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un peu plus de concret sur ce qu'on fait lorsqu'on rentre à l'armée ?
Alors, c'est ce que je disais, on a plus de 50 métiers. Donc, on a vraiment des métiers de technique, vraiment des combattants, etc. Ça dépend vraiment de la filière qu'on va choisir. Mais effectivement, on a 70%, je prends mon cas, je suis donc conseillère recrutement. Il y a 70% de mon temps où je suis du coup axé recrutement. Les 30% restants, effectivement, c'est le côté militaire où on peut faire des missions, partir en opération extérieure, faire des missions sentinelles. Donc, c'est les militaires qui patrouillent lors des gares ou par exemple sur la place Thème. Voilà, en gros, c'est vraiment très distinct et ça dépend toujours le métier qu'on choisit.
Et comme vous dites, il y a beaucoup, beaucoup de métiers au sein de l'armée.
Oui.
On a quand même besoin de la mécanique, de l'aviation.
Oui,
c'est vraiment très complet. Et il y a des femmes dans chaque métier ?
Oui, tout à fait. On a des pilotes de chasse qui sont féminines, des commandants de base. Après, 50 métiers, on est vraiment cuistots, ressources humaines, donc mécaniciens, vous l'avez dit. Métiers pompiers, combattants, logistiques, on est vraiment ouvert à tout.
Donc aujourd'hui, si on n'a pas de formation ou de diplôme et qu'on ne sait pas forcément quoi faire, on peut justement venir à l'armée pour découvrir un métier ?
Oui, tout à fait, c'est ça. Nous, on recrute et on vous forme dans un nouveau métier, dans le métier que vous avez choisi.
Et en tranche d'âge, là, vous avez cité de la troisième à un peu plus âgée. Vous pouvez nous donner une tranche d'âge ?
De 16 ans, on a les lycées militaires. Donc c'est un lycée militaire, c'est qu'ils signent quand même un petit contrat d'engagement. Et jusqu'à 30 ans.
C'est-à-dire qu'au-dessus de 30 ans, on ne peut plus s'engager ?
Non.
Même dans l'administration ?
Ouais, c'est ça. C'est le critère vraiment de 16 à 30 ans.
D'accord.
Max. Sauf si on a un passé militaire, mais bon, après, c'est encore d'autres...
Oui, c'est encore
d'autres choses.
Et aujourd'hui, vous êtes pas là, pas forcément pour recruter que des femmes, vous êtes là pour recruter tout le monde.
Tout à fait.
Quelles sont les autres actions que vous faites au quotidien, justement, en termes de recrutement ?
On se déplace justement sur les forums, on va dans les établissements scolaires. Vraiment, justement, c'est ce qu'on dit, hein, casser les codes du militaire qu'on voit faire la guerre, etc.
Je vais vous poser une question un peu plus personnelle, mais vous, dans votre métier en tant que femme, vous vous sentez comment ?
Très bien. Très bien, parce que du coup, chez nous, on a vraiment l'égalité homme-femme. Par exemple, le salaire, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il est exactement pareil.
Ok.
Et quand on est recruté à l'armée, est-ce que... on est obligé de rester à la base, justement ?
Alors, ça dépend du statut qu'on a. On a les militaires du rang qui, eux, choisissent leur base aérienne d'affectation. Ils font toute leur carrière sur cette base. Et on a les sous-officiers, les officiers qui sont liés à la mobilité.
Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être venir découvrir ou s'engager, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, vous pouvez nous retrouver au 47 rue Sainte-Catherine. C'est le centre d'information des recrutements des forces armées, à Nancy. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a vraiment les trois armées. Donc, les trois armées sont là pour répondre vraiment à toutes leurs questions.
Est-ce qu'il y a des journées d'intégration ? Enfin, des petits jours pour venir voir comment ça se passe ?
On fait des petits stages, mais ouais, c'est pas trop le but.
Et peut-être une dernière question, encore un cliché que j'aimerais enlever. Est-ce que être une femme au sein de l'armée, c'est compatible avec une vie de famille ?
Oui, bah moi je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et il n'y a aucun point négatif là-dessus.
Ok, merci.
Voilà, donc aucune porte ne vous est fermée si jamais vous souhaitez venir découvrir ou tout simplement travailler pour l'armée. N'hésitez pas à aller découvrir. Vous me dites, c'était quoi ?
Au centre d'information de recrutement des forces armées.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. On est toujours sur le salon Talents féminins pour la 3e édition à l'Hôtel de Ville de Nancy. J'ai à mes côtés Magali.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Tout se passe bien ?
Oui, je te passe la parole.
Oui, bah oui, moi je suis là parce que je suis venue avec une invitée, c'est Sabrina Benmokhtar. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors Sabrina est adjointe au maire en charge de l'égalité femmes-hommes, en charge également des droits humains et de la lutte contre les discriminations. J'ai tout bon ?
Tout à fait, c'est parfait.
Alors, j'ai proposé à Sabrina de venir sur le studio parce que là, on parle de femmes et d'emploi. Et en fait, il faut savoir que la ville de Nancy a mis en place ce qu'on appelle un congé menstruel. Et donc, qui de mieux pour nous en parler que vous, Sabrina ? Alors, quand est-ce que ce congé a été mis en place et pourquoi ?
Il a été mis en place l'an dernier, ça, nous l'avons voté, c'est une expérimentation hein, puisque ce n'est pas quelque chose qui est prévu par les textes, mais c'est quelque chose que nous on avait envie de mettre en place parce qu'on avait envie d'être en devant finalement des politiques nationales et on a dit bon, on se dit qu'on veut l'expérimenter pour les agents de la ville de Nancy. Bien évidemment on ne peut pas l'imposer aux entreprises avec qui on travaille, mais nous on peut se l'imposer. Et donc, on a permis aux femmes qui ont des règles qui sont incapacitantes de pouvoir en fait avoir un aménagement de poste. Ça peut aller du télétravail à des jours posés pour pouvoir se remettre pendant leur menstruation.
Alors, c'est une expérimentation qui doit durer combien de temps ?
Là, on veut l'expérimenter jusqu'à la fin. Donc là, ça fait déjà un an. On veut continuer puisque je pense que le temps que le dispositif puisse trouver en fait son public. On sait que les femmes, on a beaucoup de freins à lever, des freins qui sont psychologiques. On a peur aussi d'être mal vues, d'être mal perçues par la hiérarchie, etc. Donc afin de lever tout ça, je pense qu'il faut que ce dispositif soit pérenne sur plusieurs années.
Ouais, parce que c'est un sujet qui reste encore très tabou aujourd'hui.
Tout à fait. Malheureusement, c'est encore un sujet tabou.
Donc, sous quelles conditions est-ce qu'on peut s'absenter 5 mois tous les mois si on a des règles douloureuses ou est-ce que, voilà, comment est-ce que c'est encadré ? Est-ce que c'est le médecin qui dit « là, faut vous arrêter »
Non, en fait, c'est deux jours dans le mois, jusqu'à 2 jours dans le mois, puisque c'est les jours qui sont considérés les plus douloureux ouais. Et les plus difficiles, qui bénéficient d'un aménagement de poste. Ça peut être avec... une ordonnance d'un médecin, un certificat médical, mais ça peut être aussi de manière déclarative.
D'accord, ok. Et ça concerne potentiellement combien d'agents sont employés à la ville de Nancy ?
Il y a une bonne, je pense qu'on serait aux alentours de 400-500 femmes, et malheureusement, comme je vous dis, le dispositif peine à trouver son public. Ouais. Et sur les derniers chiffres que l'on a, il n'y a qu'une grand max une vingtaine de femmes qui ont eu recours à ce dispositif. Donc ça reste très peu pour le moment.
Est-ce que ça a déjà été expérimenté dans d'autres collectivités ? Est-ce que vous êtes allé faire un peu des retours d'expérience ?
Alors, il y a eu une tentative de proposition de loi qui avait été proposée par un groupe politique à l'Assemblée nationale. Malheureusement, elle n'a pas vu le jour, elle n'a pas été votée. Mais suite à ça, et même en amont, et suite à ça, plusieurs collectivités ont décidé d'expérimenter cet arrêt menstruel. Et c'est aussi une manière en fait, d'aller au-devant des problématiques, de ne pas attendre en fait, que le national nous impose un cadre, etc., et de partir en fait, de la réalité du terrain et influencer aussi les politiques nationales. Si des villes, des grandes villes comme les nôtres prennent position et l'expérimentent, c'est que c'est possible, c'est que c'est faisable. Et les arguments qu'on peut nous opposer, finalement, eh ben, nous, sur le terrain, sur la réalité, on déconstruit puisqu'on aura expérimenté, on aura vu quels sont les freins, s'il y en a, et déconstruire ceux qu'on prétend nous opposer.
Alors, on est sur un salon aujourd'hui où on met en valeur les talents féminins. Mm-hmm. Et on peut dire que Sabrina Benmokhtar, vous êtes un bel exemple de talent au féminin.
Que d'honneur.
Si, faut le dire. Voilà. Alors, pour le coup, vous avez choisi la voie de la politique. Mm-hmm. Donc, vous êtes adjointe au maire. Comment s'est fait ce parcours pour arriver jusqu'à où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si vous allez me croire, mais c'était le dernier endroit où je me serais vue, en fait, dans ma vie étant plus jeune. On m'aurait dit, Sabrina, tu vas faire de la politique. J'aurais dit, même pas en vrai, je préfère être à l'armée, quoi. Donc, pour vous dire à quel point. Mais non, c'était vraiment le dernier endroit où je me trouvais. Puis, de fil en aiguille, j'ai un engagement qui est plutôt militant. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à passer du militantisme, l'association, après militantisme, après forcément politique.
Ça permet aussi d'avoir peut-être de pouvoir accélérer sur des projets que vous portez au niveau d'association. Là, le fait aussi d'avoir une main dans la politique, ça permet aussi
d'accélérer. Je dis toujours que pour faire avancer les choses, faire avancer certains dossiers, certains sujets, il faut les deux jambes. Il faut toujours la jambe syndicale, associative, mais aussi la jambe politique. Et si on ne travaille pas de concert ensemble, c'est très difficile de faire avancer les choses.
Alors, comment c'est d'être une femme en politique ? On sait que c'est un milieu qui reste très masculin. Mm-hmm. Comment on se fait sa place ?
C'est un milieu très masculinisé, avec ses codes, avec la violence aussi parfois. Faut pas se le cacher. Comment on fait sa place ? Je pense qu'il faut être bien entouré. En tant que femme, je pense que c'est. Je dis pas que c'est pas naturel. Au contraire, c'est que nous, notre résilience, notre engagement est tout à fait naturel, tout à fait légitime. Sauf que lorsqu'on arrive dans un milieu qui est masculinisé, pas nécessairement masculin, mais masculinisé avec ses codes, etc., on nous fait bien ressentir qu'on a un cheveu sur la soupe. Et donc forcément, il faut pouvoir avoir de la compatibilité, puisqu'on a de la pression. On essaie de nous remettre à notre place ou nous faire comprendre parfois qu'on est juste un quota, qu'on est là que pour la parité et que c'est bien beau ou pour être la plante verte. Mais il faut réussir à se barder, à aller au-delà. Et pour réussir à faire ça, il faut être vraiment bien entouré.
Et comment on les casse, ces codes, justement ?
Par la représentation, par la solidarité aussi féminine. Ça, c'est quelque chose que je suis devenue ambassadrice du réseau élu local 54, donc c'est un réseau national de femmes élues. Et en fait, on essaye de construire, malgré nos divergences qui peuvent être politiques, c'est un mouvement qui est transpartisan, de réussir à pouvoir s'entraider sur des questions spécifiques, sur des questions justement d'engagement des femmes en politique.
Et ça va être quoi les freins ou les difficultés principales auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos fonctions ?
La difficulté, c'est le. J'ai parlé déjà du milieu, des codes, du fait qu'on est un peu. Qu'on nous fait sentir qu'on peut juste nous tolérer, mais il y a aussi dans certains. Alors on pense que parce que depuis qu'il y a la loi sur la parité, tout est résolu, c'est pas du tout le cas. Dans les intercos, donc je parle par exemple à la métropole, au conseil métropolitain, dans l'exécutif métropolitain, il n'y a pas la parité. Il y a plus d'hommes que de femmes, puisque de part, en fait, la tradition qui est de mettre les maires, vice-présidents, etc. dans l'exécutif, les femmes n'ont pas leur place entre guillemets parce que les hommes ne laissent pas leur place, les maires veulent être vice-président et ne veulent pas laisser leur première adjointe, etc. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de parité dans les intercos.
Et une dernière question concernant les élections municipales qui arrivent l'année prochaine. Il y a donc une loi qui est passée où même aujourd'hui, l'année prochaine, les maires de petites communes, les maires, en tout cas candidats, devront eux aussi, même si c'est une commune de 70 habitants, présenter des listes paritaires. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est faisable ? Parce que c'est vrai qu'on entend, c'est pour la bonne cause, mais derrière, il y a aussi beaucoup d'élus qui disent j'ai déjà du mal à avoir assez de gens sur ma liste, et en plus, si ça doit être autant de femmes que d'hommes, comment je fais ?
Je pense que ça reste une avancée, parce que malheureusement, lorsqu'on ne force pas les choses, si on ne force pas les choses, il ne se passe absolument rien. Et vous n'allez pas me dire que même dans des petits villages, etc., il n'y a pas de femmes qui sont absolument compétentes. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas des femmes qu'on peut former, même si... je suis désolée, il ne faut pas croire qu'on arrive en politique et qu'on est tous formés et qu'on sait tout. Surtout, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement réussir à pouvoir former des personnes si elles ne sont pas formées. Donc tout ça, c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, j'allais le dire, j'ai fait partie du... Dans le cadre du réseau élu local, il y a une femme mère qui a témoigné et qui a dit « Mais moi, ça m'embête cette parité » parce qu'elle dit « Moi, mon équipe est exclusivement féminine. Oui. » Donc voilà, il y a aussi dans le sens, il y a aussi l'inverse. Donc oui, ça, c'est la preuve en fait que c'est une question de choix et de volonté politique.
Merci beaucoup Sabrina.
Je vous en prie, merci de m'avoir reçu.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer,
et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille.
tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
RCN se délocalise.
RCN se délocalise.
Madame la ministre, vous êtes actuellement sur le salon Talents au féminin. Vous abordez ici le sujet de l'égalité femmes-hommes au travail. Quel état des lieux on peut faire à l'heure actuelle à ce sujet ?
On progresse sur l'égalité salariale, sur le niveau de rémunération entre les femmes et les hommes, mais il y a encore des écarts qui persistent et qui sont absolument inacceptables. C'est pour ça que la loi est là, parce que la loi, elle impose aux entreprises maintenant de plus de 50 salariés de dire s'il y a des écarts, mais surtout de les corriger. Sinon, nous sanctionnons les entreprises qui ne respectent pas la loi. Puis vous aussi changer nos représentations. C'est ça qui est très utile dans ce genre de forum, c'est qu'on peut se projeter dans des métiers auxquels on ne pensait pas forcément, ou plutôt auxquels la société ne pensait pas forcément pour nous. Parce que dès le plus jeune âge, on est conditionné en tant que petite fille ou en tant que petit garçon sur certaines représentations, certains stéréotypes. Et en fait, c'est des stéréotypes qui nous empêchent, qui empêchent à nos petits garçons de se projeter sur des carrières, sur les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, du lien, l'éducation, magistrat. Et puis qui empêchent nos petites filles de se projeter sur des métiers d'ingénieur, métiers industriels. Et donc, il faut utiliser ces forums-là pour se dire qu'en fait, c'est possible. C'est possible à tous les âges. On a le droit aussi à une seconde chance. On a le droit à de la reconversion professionnelle. Et j'ai croisé d'ailleurs beaucoup de femmes dont c'est le cas aujourd'hui. J'ai eu la chance d'échanger avec une dame qui est ukrainienne, qui est arrivée ici du fait de la guerre et qui a été accueillie en France et qui donc aujourd'hui cherche à travailler dans notre pays. Et voilà, c'est aussi ça ce que la France permet. C'est aussi garantir que des gens qui viennent d'ailleurs et qui, là pour des raisons que chacun comprend avec l'Ukraine, ont été contraints de venir, eh bien trouvent dans notre pays une deuxième maison, un refuge, mais aussi un lieu dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et être utiles aussi, parce que ce sont des métiers dont on a cruellement besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui s'engagent.
Tout à l'heure, vous allez vous rendre au CHRU, à la Maison de la Résilience. Ce sera l'occasion de parler de santé mentale et notamment de santé mentale des femmes.
Je pense qu'il faut briser des tabous quand on parle de santé. Il faut aussi parler de la santé mentale. Quand on dit « je dois prendre soin de mon corps, je dois prendre soin de moi », ça veut dire qu'on doit aussi prendre soin de sa santé mentale. Et pendant très longtemps, ça a été un tabou. Regardez les mots qu'on employait pour désigner les hommes et les femmes qui avaient la nécessité à un moment de leur vie d'un accompagnement et d'un accompagnement médical. La question de fou, de la folie. On voit bien encore une fois que c'est très difficile aujourd'hui d'en parler plus spontanément, de dire dans sa famille, de dire auprès de ses amis, oui, j'ai un psychiatre qui m'accompagne, oui, j'ai un psychologue qui m'accompagne. Et ça, c'est une nécessité de briser ce tabou pour tous les Français et encore plus sur la question de la santé des femmes, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des moments de vie ou qui sont plus à risque que d'autres. La question du postpartum, quand on vient d'avoir un enfant, la question de la ménopause, là encore, grand tabou dans notre société, où on sait que malheureusement, ça peut engendrer des risques, surtout si ce n'est pas accompagné et soutenu. Et puis, on va surtout cet après-midi aller plus loin sur la question de la lutte contre contre toutes les formes de violences faites aux femmes, en garantissant que les femmes puissent porter plainte directement à l'hôpital et dans tous les services de l'hôpital. Une femme qui accouche à la maternité où on va déceler des violences, elle pourra porter plainte tout de suite, maintenant. Une femme qui se rend aux urgences, elle pourra porter plainte. Et si jamais elle n'est pas prête à porter plainte tout de suite, on va pouvoir recueillir les preuves, les conserver pendant 3 ans, et elle aura ce délai de réflexion pour se dire si elle est prête ou pas à franchir ce pas.
Et ce matin, vous étiez en visite sur le plateau de Haye. Est-ce que vous pouvez revenir sur les échanges que vous avez réalisés là-bas ?
Oui, c'était important pour moi de démarrer cette journée avec les acteurs qui sont ceux du terrain, les acteurs associatifs qui sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et on a rappelé ensemble des principes simples, c'est-à-dire qu'en fait, on lutte dans le même mouvement, dans le même temps contre toutes les discriminations. On ne trie pas, on ne hiérarchise pas, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Non, on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre le racisme, on lutte contre les discriminations liées à l'origine, liée au quartier aussi, qui nous a beaucoup été rappelé ce matin, où on a encore des habitants du quartier qui me disaient « je ne vais pas en centre-ville, je vais à Nancy », comme s'il y avait ces frontières qui continuaient à exister dans les esprits et des deux côtés. Et donc il faut lutter contre toutes ces formes de discrimination. On a parlé aussi des questions LGBT, la question du handicap, la question de l'égalité. Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça, de se dire qu'en fait on ne trie pas, on ne choisit pas, on lutte dans le même mouvement contre toutes les formes de discrimination. Et heureusement on progresse parce qu'on y met les moyens, parce qu'on a des travailleurs sociaux engagés, puis parce qu'on travaille main dans la main aussi entre l'État et les collectivités locales. Il faut aussi mesurer les progrès qui ont déjà été réalisés. Moi, c'est vrai que je suis souvent tentée de ne voir que ce qu'il faudrait encore faire, encore changer, encore transformer, encore améliorer, mais il faut aussi considérer qu'il y a des choses qui vont mieux dans notre société. Et je crois que c'est important aussi d'arriver à le reconnaître, qu'il y a des sujets qui sont moins tabous qu'avant, qu'il y a des lois qui ont progressé, qu'il y a des accompagnements qui se sont amplifiés, que l'égalité, le champ de l'égalité, ça va mieux. Et puis qu'on considère intolérable aujourd'hui les inégalités. Et ça, c'est aussi un progrès déjà de la société elle-même, de se dire qu'en fait, les inégalités salariales, les discriminations, tout le monde les juge comme étant intolérables.
Merci à vous.
Nous sommes maintenant avec une personne du stand AEIM, donc une association médico-sociale. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre stand et nous dire qu'est-ce que c'est AEIM ?
Alors, l'AEIM est une association qui accompagne des personnes avec une déficience intellectuelle tout au long de leur parcours de vie, de la petite enfance jusqu'à la personne vieillissante. On est 1700 salariés, on intervient sur le département de la Meurthe-et-Moselle et sur Saint-Dié-des-Vosges, et nous avons une quarantaine d'établissements au sein desquels on accueille donc les personnes. Ce sont des personnes qui sont accueillies soit en école spécialisée, donc de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes. Ensuite, on a des structures qui sont plutôt des structures en lien avec l'habitat, l'hébergement, plus ou moins médicalisé. Également des structures en lien avec le travail. On va retrouver des ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail et une entreprise adaptée.
Donc vous, votre rôle, si j'ai bien compris, c'est de faire le lien entre toutes ces structures et la personne.
Oui, tout à fait. On accompagne les personnes. Elles sont orientées par la maison départementale des personnes handicapées. Elles sont orientées dans nos structures et l'idée, en fait, c'est pouvoir s'épanouir en fait, dans nos structures, favoriser leur parcours, qu'il n'y ait pas de rupture et puis surtout qu'elles aillent vers une vie sociale la meilleure qui soit.
Oui, adaptée à leurs besoins. Parce que c'est tout type de handicap, moteur et psychique.
Alors, c'est d'abord de la déficience intellectuelle et on a aussi des profils parfois où on peut avoir d'autres handicaps, du polyhandicap qui peut venir se mêler aussi et d'autres déficiences également.
Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler des femmes. Vous êtes là spécialement pour recruter des femmes. Est-ce que c'est un milieu où qui a beaucoup de femmes ou pas ?
Alors oui, justement, ce matin, on m'a donné un petit peu de statistiques sur le sujet. Et effectivement, dans notre secteur, et plus précisément sur le secteur du travail social, on est à, je crois, 70%, 80% de femmes. Voilà.
Et comment vous expliquez justement qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce type de métier ?
Alors, j'ai pas forcément d'explication particulière, en tout cas sur le travail social, hein, je précise bien que c'est plus de femmes. Après, on est sur le prendre soin d'une manière générale. Est-ce que c'est des métiers qui sont peut-être plus spontanément vers lesquels les personnes s'orientent ? Je sais pas.
Donc là, si j'ai bien compris, là aujourd'hui, vous êtes là pour recruter à vos côtés et non pas pour dire aux gens, bah voilà, si vous avez besoin, on est là.
Oui, tout à fait. Là, oui. Je recrute des professionnels pour travailler dans nos établissements.
D'accord.
Et donc, c'est des professionnels qui vont s'occuper donc des personnes en situation de handicap.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc il faut être formé, il faut avoir une idée.
Alors, on a différents types de professionnels. On a des professionnels qui interviennent sur les fonctions, ce qu'on appelle éducatives. On va retrouver tous les métiers du travail social, des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, assistants sociaux, les moniteurs d'atelier, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ensuite, on a toutes les fonctions médicales, paramédicales. On va retrouver les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les psychomotriciens, les orthophonistes, etc. Les fonctions support, donc RH, comptabilité, communication, immobilier. Et puis, enfin, toutes les fonctions qui sont en lien avec les services généraux, donc l'entretien du bâtiment, le nettoyage, voilà. Donc, on a 80 métiers nous différents dans notre association.
Donc, au final, aujourd'hui, la personne qui vient pour postuler et si elle se fait recruter,
oui,
elle va se retrouver dans un large type panel de métiers, quoi.
Alors, en fait, une personne qui vient avec effectivement une fonction, elle va avoir la possibilité au sein de nos différents établissements d'exercer en fait son métier dans des environnements même différents. Hein, par exemple, une aide-soignante, elle peut travailler soit en école, soit elle peut travailler dans un foyer. Elle peut même déménager, puisque nous, on a cette possibilité-là qui s'offre aussi à nos collaborateurs, puisqu'on est implanté sur tout le département. Donc, quelqu'un qui habiterait sur Longwy et qui souhaite venir travailler, par exemple, sur Saint-Nicolas-de-Port, il y a la possibilité effectivement de pouvoir déménager et de travailler, être muté dans un autre établissement. Donc il y a plein de possibilités, du coup, que ce soit des mobilités géographiques, des mobilités en termes d'environnement, mais aussi de publics différents qui est accompagné.
Je vois sur cette journée qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. Si on vient vous voir, vous pouvez expliquer aussi quel parcours prendre, peut-être en études, pour ensuite venir vous rejoindre.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le but, c'est qu'on soit aussi dans le conseil. On intervient de plus en plus auprès de lycéens, justement, également dans les centres de formation, pour pouvoir aussi sensibiliser aussi au handicap, pour peut-être que spontanément, souvent, les jeunes ne vont pas forcément s'orienter vers ce secteur, en tout cas pas majoritairement. Donc ça permet aussi de sensibiliser, puis d'ouvrir un petit peu plus le champ des possibles aux jeunes.
Et en termes d'âge, là pour les jeunes justement, est-ce que vous avez une tranche d'âge sur laquelle vous pouvez commencer à recruter des personnes ?
Dès qu'ils sont majeurs en fait, dès qu'ils ont 18 ans, on peut les embaucher.
Et là, dès qu'on a 18 ans et qu'on a envie peut-être de venir découvrir, on doit se rendre où pour découvrir justement ces métiers-là, ce que vous proposez ?
Alors, il est possible de faire des immersions dans nos établissements. Donc là, il faut se mettre en lien avec chacun d'entre eux pour vérifier leur capacité à accueillir. Puisque c'est le but aussi, et c'est important, je pense, pour des jeunes, des fois, qui peuvent avoir eu des représentations. L'idée, c'est aussi de peut-être travailler un peu là-dessus, sur les représentations qu'on peut avoir, l'idée qu'on se fait d'un métier, d'un environnement. Et puis, parfois, ça peut aussi déclencher des vocations, créer des déclics aussi pour les personnes. Donc, l'idée, c'est de se mettre en lien avec les établissements directement s'ils souhaitent faire des stages. Et sinon, après, pour tout ce qui est candidature, bien évidemment, ça se fait via notre site internet.
Okay. Est-ce que vous pouvez citer votre site internet, s'il vous plaît ?
C'est le www.aeum.eu.
Et peut-être une dernière question. Travailler dans le social, est-ce que, en tant que femme, vous faites face à certaines barrières, peut-être, je sais pas, en termes de crédibilité ou...
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de barrières, en tout cas. Nous, notre structure médico-sociale, on est quand même sur le champ du handicap. Donc, autant dire aussi qu'on a une certaine ouverture sur les profils. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de barrière en tant que femme. Ben, au contraire, parce que comme je vous disais, on est majoritairement des femmes. Donc, c'est l'effet inverse.
Voilà, donc si vous souhaitez découvrir les métiers dans le médico-social, n'hésitez pas donc à vous rapprocher de l'association AEIM. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Sous mon sang là, regarde. animal déguisé en madone. Je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la
se délocalise.
RCN se délocalise.
On est toujours sur l'événement Talent Féminin pour la troisième fois et on est à l'hôtel de ville. Élie, je te passe la parole.
Bonjour madame, comment allez-vous ?
Ça va bien et vous ?
Ça va, merci. Alors vous êtes du stand de France Travail. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Alors on est là aujourd'hui parce que c'est important qu'on représente France Travail dans sa globalité sur des salons comme celui-ci. On a contacté nos demandeuses d'emploi pour les informer de ce salon, pour qu'il y ait des échanges et des rencontres intéressantes. Et je vois que ça a bien fonctionné.
Et donc, on est là aujourd'hui pour mettre en avant les femmes. Comment ça se passe au sein de France Travail pour favoriser l'accès au travail pour les femmes ?
Alors, honnêtement, on est majoritairement des femmes à travailler à France Travail. Donc, je pense que ça marche plutôt bien. On est vraiment, en tout cas... sur un pied d'égalité, il n'y a pas de... Voilà, ça se passe plutôt bien. France Travail, on est plutôt bon élève, je pense, par rapport à cette parité-là.
Donc vous, chez France Travail, ça va, vous êtes plutôt bon élève, il y a plutôt beaucoup de femmes. Mais donc vous qui accompagnez les autres femmes à accéder aux autres travails, comment ça se passe avec les autres entreprises pour l'accès des femmes, justement ?
Alors, c'est pas aussi évident, effectivement, par rapport aux entreprises. C'est un certain type de métier également. On fait aussi reposer beaucoup sur les femmes des contraintes d'ordre familial, d'organisation de la vie personnelle. Et c'est vrai que moi qui accompagne les demandeurs et les demandeuses d'emploi pour le coup, on a effectivement des témoignages d'employeurs qui sont plutôt réticents parce qu'il y a ce côté, il faut aller chercher les enfants à 17 ans. Voilà. Tous ces clichés qui sont encore bien ancrés, je pense, malheureusement dans le collectif, quoi.
Et comment combattre un peu ces clichés-là et pouvoir laisser de la place aux femmes d'intégrer les entreprises sans forcément penser à leurs contraintes familiaux, les enfants, le travail et tout le reste ?
Déjà, il faut dire aux femmes de pas se priver de candidater sur certains postes en se disant de toute façon, je ne serai pas retenue parce que si, parce que ça, parce que voilà, je vais mettre deux enfants sur le CV et ça va bloquer. Moi, je pense qu'il faut y aller quand même. Il faut s'affirmer, il faut candidater sur des postes, même si on croit qu'ils ne sont pas accessibles aux femmes. Et je pense qu'il faut travailler aussi sur le recrutement et la mentalité des entreprises aujourd'hui en France.
Parce qu'il y a des postes où ce cliché perdure encore beaucoup ?
Sur des postes peut-être à responsabilité où il y a beaucoup d'heures à fournir. Oui, effectivement, il peut y avoir des réticences de l'employeur pour recruter plutôt une femme qu'un homme. Je pense que s'ils ont à choisir sur un recrutement en dernière position, malheureusement, j'ai peur qu'ils favorisent plutôt l'homme que la femme, à compétences égales, voire à compétences supérieures pour les femmes.
Et vous, France Travail, vous n'arrivez pas à tenir tête à ce genre d'entreprise ?
Alors, nous, on est là aussi pour voir les offres, pour mettre en face des offres des demandeuses d'emploi, sans aucun caractère discriminant, déjà au niveau des offres qu'on publie. D'accord ? Il n'y a aucun critère ni d'âge, ni de sexe au niveau de nos offres d'emploi, donc ça c'est très important. Après, en retour d'expérience, parce qu'il n'y a qu'en retour d'expérience qu'on peut savoir si effectivement un recrutement s'est mal passé, si effectivement le recruteur est allé sur un terrain plutôt personnel, qui n'a rien à voir avec le parcours professionnel, et pour dire qu'à la fin, bah non, en fait, on ne va pas la prendre parce que, bah, voilà, pour toutes les contraintes que je vous ai évoquées avant. Donc il peut y avoir un échange après avec l'employeur, mais voilà, c'est juste. Nous, on est France Travail, et voilà, malheureusement, on ne peut pas forcer un employeur à prendre quelqu'un.
Oui.
C'est ça.
C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent pendant des années, pendant une longue période sans emploi. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles, pour peut-être les former ou en tout cas les faciliter à retourner au travail ?
Alors, effectivement, sur un travail, ben, on va travailler un projet professionnel, hein, donc avec un certain nombre d'outils. On a une offre de service qui est quand même assez dense, qui est gratuite, qui permet de travailler un projet, de voir quelles compétences la personne détient, quelles compétences elle veut acquérir, vers quel métier elle s'oriente. Et ensuite, il y a tout un parcours de validation de projet avec une formation et on l'espère, forcément un emploi à la clé. Donc ça, c'est un parcours qui se fait en plusieurs étapes et on accompagne les personnes, bien évidemment, sur ces sujets-là.
Vous proposez des aides comme ça pour un peu pas délaisser ces femmes-là qui ne trouvent pas de travail ?
Alors, nous, on propose à celles qui s'inscrivent, okay, déjà. Donc, ça veut dire que si la personne s'inscrit, c'est que quelque part, elle a envie aussi de mettre toutes ses chances de son côté. Elle a envie d'être accompagnée aussi par France Travail ou un autre opérateur d'ailleurs, mais en tout cas elle a envie de travailler un projet professionnel, elle a envie de remettre un pied dans le milieu du travail, donc c'est déjà un grand pas en avant. Et après, effectivement, selon le projet, on va l'accompagner sur des dispositifs très particuliers d'accompagnement intensif, plus ou moins intensif, ça dépend, chaque cas est particulier.
Et donc, en termes d'action, est-ce que justement vous participez quand même sur ces entreprises-là où il n'y a pas trop de femmes ? Vous participez à ce qu'ils ouvrent leurs portes aux femmes ou vous faites des actions comme ça ?
Alors, pas forcément, non. On va être plus sur des forums, généralistes. Des forums, par exemple, aujourd'hui, il y a le forum de l'agriculture. Et effectivement, dans la communication qu'on a développée sur ce forum agriculture, c'est effectivement, c'est ouvert à toutes et à tous, femmes, hommes, etc. Parce qu'effectivement, il y a des métiers qui sont plus typés, malheureusement, encore aujourd'hui, hommes, femmes, l'agriculture en fait partie. Donc voilà, nous, on essaye d'ouvrir vraiment ces portes-là, mais on est sur des salons de formation, on est sur plein de choses. Tout le monde est la bienvenue, évidemment.
Et là, si une femme s'inscrit à France Travail, vous êtes en capacité de, par rapport aux offres qu'il y a, de lui proposer quand même un large type de métier pour qu'elle puisse voir plein de choses.
Après, il faut avoir conscience aussi du marché du travail. C'est pour ça que je disais aussi, chaque parcours est différent. Ça dépend ce que la personne a déjà comme diplôme, comme expérience, ce qu'elle veut faire et le marché du travail. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'elle trouve sa voix et qu'elle puisse s'épanouir un maximum dans son travail, tout en ayant bien sûr en tête les contraintes du marché du travail. Donc ça, c'est un incontournable.
Vous saurez nous dire s'il y a plus de demandeuses d'emploi hommes ou femmes ? Non, c'est à peu près, ok. On coupera.
Question piège. J'ai pas mes chiffres.
C'est pas grave, on coupera.
Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais je suis pas sûre de moi.
Ok, bon, dans le doute.
Je peux pas vous dire.
En tout cas, merci beaucoup par rapport à cette interview. Est-ce que il y a un... on peut vous retrouver tout simplement sur France Travail.
Oui, si vous faites partie de mon agence, on pourra se croiser effectivement.
Merci beaucoup.
Merci. De rien, merci à vous.
On est toujours à l'Hôtel de Ville pour le salon Talents Féminins. On est avec le dispositif Block Booster. Donc, c'est un coaching pour accompagner des femmes avec le sport et l'escalade. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois petits mots pour compléter comment je vous ai introduit ?
Oui, alors en fait, c'est un projet qui a été initié par la Maison de l'Emploi de Nancy. Moi, j'ai été mis en relation avec eux par la métropole du Grand Nancy parce que j'ai monté mon propre association et je fais de l'accompagnement assez divers, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Et donc, j'ai monté le projet avec Grégory Serrandour de la Maison de l'Emploi. Et en fait, voilà, ça a grossi. Au départ, il était vraiment sur l'escalade. Et comme moi, je suis un peu multisport, ils se sont dit, allez, feu, c'est parti, on va partir là-dessus. Proposer à des femmes de faire des séances de sport et en même temps d'avoir du coaching pour pouvoir faire de la réinsertion, trouver de l'emploi, leur redonner confiance en elles.
Donc aujourd'hui, on est là pour Talent Féminin, un événement prévu pour les femmes. Donc dans ce cadre-là, vous, pourquoi vous avez voulu créer donc Blockbuster ?
Parce qu'on s'est dit avec Grégory qu'il y avait vraiment besoin pour ces femmes-là, des femmes qui étaient peut-être un peu plus fragiles. Alors c'est bien de faire de l'accompagnement par Pôle emploi, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin de creuser un peu plus, il y a besoin de redonner de la confiance, il y a besoin de créer des espaces de parole, voilà, d'aller chercher aussi ce qu'elles aiment vraiment. Parce que dans le speed, on dit voilà, faut trouver de l'emploi, mais c'est facile quand quelqu'un sait ce qu'il veut faire. Mais il y a des gens qui sont un peu perdus. Et donc, il faut leur laisser le temps d'évoluer, de tester des choses, de se dire oui, finalement, dans le sport, dans l'animation, dans autre chose, dans l'environnement, enfin voilà, leur laisser le temps en tout cas de mûrir leurs idées, de tester et puis trouver l'emploi. C'est une insertion par le fond et pas par la forme.
Donc c'est un dispositif qui est de base créé pour redonner confiance aux femmes ?
Tout à fait, c'est ça.
Vous êtes situé sur Nancy ?
Alors oui, on intervient sur Nancy, donc une salle d'escalade en bloc, mais on a commencé à faire de la grimpe parce qu'elles sont super douées, donc c'était super, super intéressant de démarrer le projet. Et puis on a fait de la danse hip-hop, on a fait fitness, on a fait du yoga, on a fait pas mal de choses.
Et donc oui, pendant une longue période, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des femmes qui se retrouvent sans emploi. Donc vous justement, vous participez à ce qu'elles reprennent un peu confiance en elles, qu'elles puissent penser à peut-être un autre type de métier qu'elles n'avaient pas pensé auparavant et pouvoir revenir sur le marché du travail ?
Oui, complètement. Et puis moi je suis un peu un couteau suisse, j'ai touché à plein de choses. Alors c'est pratique parce que quand on aime plein de choses, on a plein d'expériences. J'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Donc j'ai un panel hyper large de choses à raconter et elles se disent « Ah ouais, en fait, on peut faire ça ». Moi, je travaillais en déplacement dans la logistique pendant plus de 10 ans. Maintenant, je suis en gestion d'un service périscolaire. Voilà. Il y a plein de métiers, tout est accessible, question de volonté en fait.
Du coup, question de volonté, vous, ces femmes-là, vous les trouvez où ?
Ah, c'est pas moi qui les trouve. Là, pour le coup, Coraline saura peut-être même mieux dire que moi comment elle a été contactée pour le projet.
Personnellement, c'est avec la mission locale. Mais après, je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont été contactées par leur entreprise ou des trucs comme ça. Moi, je sais que c'était par la mission locale.
Et quand vous dites entreprise, donc les entreprises proposent à certaines femmes de venir chez Blockbuster.
Oui, c'est pas que pour les demandeuses d'emploi.
Alors, il faut qu'elles participent, qu'elles soient demandeuses d'emploi, parce que parfois elles sont sur des emplois précaires, ou alors en formation ou en stage d'insertion. Donc là, effectivement, on peut les rebasculer sur des dispositifs comme celui-ci.
Donc là, c'est pour un peu le bien-être et pouvoir un peu respirer. Est-ce que au moment où justement là maintenant il va falloir rechercher du travail, vous pouvez les accompagner en termes administratifs ?
Alors c'est pas moi qui le fais directement, mais elles ont des séances de coaching, elles ont pu travailler leur CV, il y a aussi comme un peu des jeux de rôle pour pouvoir faire des entretiens d'embauche et qu'est-ce qu'un employeur peut demander et s'il vous déstabilise, comment est-ce qu'on reprend confiance, comment est-ce qu'on s'exprime, comment le corps s'exprime quand on parle, voilà. Donc il y a toute une phase de coaching qui est vraiment importante dans ce projet-là.
Est-ce que vous avez certains retours d'expérience ?
Y en a certaines qui ont quitté le dispositif parce qu'elles ont trouvé de l'emploi, donc c'est génial. Alors, on était tristes de les perdre, mais on a une grosse pensée pour elles parce qu'on est très contents de les voir s'ouvrir et trouver du travail.
C'est des groupes d'à peu près combien de femmes que vous...
Entre 10 et 15.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est des bons groupes.
Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge ?
Pas du tout.
C'est ouvert à tout le monde.
On est passé du simple au double.
Ouais. Ah, donc c'est des femmes que vous accompagnez aussi ?
Oui, tout à fait. Il y a des filles qui sont sur le côté.
On est venu en force bien, aujourd'hui. Vous pouvez venir nous donner votre témoignage.
Parler de votre expérience.
Allez, Aude, tu peux venir parler. Ouais, Aude, c'est une pipelette, elle aimera bien. Elle va juste mettre son casque.
Elle s'est pas fait... elle s'est pas fait supplier. Hein.
Salut les filles.
Bonjour.
Donc, bonjour.
Aude, donc vous êtes, vous faites partie du dispositif Blog Booster, c'est ça?
Tout à fait.
Alors comment vous avez trouvé ce dispositif et comment vous vous êtes emmenée jusqu'à intégrer ce dispositif?
En fait, j'ai eu connaissance de ce dispositif par Aurélie qui est juste derrière moi. J'en ai parlé à la mission locale. Enfin, la mission de... ouais. Et du coup, j'ai intégré le groupe après. Quoi.
Donc, en termes professionnels, vous étiez demandeuse d'emploi. Ça faisait un petit moment que vous étiez déjà en demande d'emploi?
En fait, j'exerce en tant qu'artiste, auteur, photographe. Plasticienne et en parallèle je suis inscrite au chômage et effectivement ça faisait quelques temps que j'y étais.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de Blog Booster?
Ça m'a sorti de ma grotte.
Vous êtes plutôt timide et ça vous a peut-être redonné confiance en vous, c'est ça?
Timide, je sais pas, mais en tant qu'artiste on est souvent seul. Okay. Et c'est pas évident pour être en relation avec les autres et en confiance avec les autres. Et là, dans le groupe, en fait, surtout par rapport à ma situation personnelle, les filles m'ont accueilli d'entrée de jeu en toute bienveillance et sans jugement. Et il y a vraiment une force qui s'est créée entre nous. Et par rapport à ça, on se soutient énormément, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et il y a la parole qui se libère, que ce soit pour les unes ou pour les autres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et c'est vrai que c'est vraiment une énergie qu'on se transmet mutuellement, que ce soit individuellement ou quand on est en partage par rapport au groupe. N'est-ce pas, mademoiselle, là-bas?
Ah, bien sûr. Et c'est le but.
C'est vrai qu'on a hâte de se retrouver parce que ça nous permet aussi de dépasser... certains de nos blocages, que ce soit physique, psychologique, nos peurs, et de pouvoir montrer nos talents, nos compétences aussi. Et on s'encourage énormément les unes et les autres. Et c'est très...
boostant.
Merci.
Blog booster au final. Voilà.
C'est ça, en fait, c'est une communauté de femmes qui se portent vers le haut de façon différente. En fait.
C'est ça. Et comme elle l'a très bien dit, hein, avec bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement, quel que soit son âge, quel que soit son vécu. En fait, on est toutes là dans le même objectif, c'est de s'aider, de se pousser vers le haut. Si moi je peux être la marge de Aude, et ben, je le serai avec grand plaisir. Et puis je pense que c'est réciproque. C'est-à-dire qu'elles m'ont autant apporté que moi je leur ai apporté. Et en fait, on est une équipe, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment agréable.
Et comment
oui. Je voulais rajouter un truc aussi. En fait, oui, on est un groupe de femmes et essentiellement ce sont des partenaires femmes qui viennent vers nous. Mais il y a aussi des hommes. Et la base, quand même, c'est un homme qui la création vient d'un homme.
Ouais.
Il ne faut pas l'oublier. Et Grégory, il a vraiment une ouverture par rapport au féminin exceptionnel. Et on est là, mon Dieu. Et par rapport au sexisme, par rapport à ça, il est vraiment très impliqué là-dedans, que ce soit beaucoup pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il y a un autre homme aussi qui est avec nous, qui est, comme on est en escalade. Mais quand on regarde, que ce soit Grégory ou Stéphane, ouais, ils ont vraiment ce côté féminin en eux. Je pense que c'est pour ça qu'on les a intégrés dans notre groupe aussi facilement.
C'est très émouvant, c'est assez émouvante quand même. Du coup, en termes, justement, vous qui accompagnez les autres femmes, comment vous traitez ce sujet-là des hommes? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui refusent les femmes parce que c'est des mères de famille, elles ont des enfants, il y a la vie qui fait qu'elles ne peuvent pas être tout le temps disponibles pour le travail. Comment vous traitez ce sujet-là des hommes avec les entreprises et le monde du travail?
Alors moi, j'ai moins affaire aux entreprises. Par contre, j'accompagne vraiment les ados. Mon association est à partir de 10 ans et jusqu'à... des fois très longtemps. Il y en a, ça fait 20 ans que je les suis et qui ont des vies des fois pas faciles. Et en fait, ça se travaille dès le départ. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait du sexisme et pour éviter qu'à un moment donné, les hommes aient l'impression qu'ils aient le dessus sur les femmes, ou que c'est eux qui doivent avoir la charge familiale, ou, et ben moi, je déconstruis tout ça et je les fais travailler ensemble. Et en fait, je dis toujours, la mixité, c'est une très, très bonne chose, en fait. Il faut montrer le bon côté, mais dès le départ. Je suis partie en séjour avec des jeunes de quartier qui me disaient c'est les femmes qui vont faire la cuisine tout le long du séjour. Bah du coup non, en fait c'est parce que les tâches ménagères c'est tout le monde, c'est-à-dire que quand tu salis, bah s'il n'y a pas quelqu'un qui nettoie, ça reste sale. Et en fait c'est pas un trait féminin, c'est vrai, on n'a pas une prédisposition pour ça. On a une prédisposition pour les enfants peut-être, mais pas pour le ménage. Et en fait j'ai déconstruit plein de choses et c'est cool parce que là maintenant ce sont des adultes et qui sont à l'opposé, qui sont plutôt dans la mentalité de Grégory ou de Steph avec qui on travaille. Donc je me dis plus on aura de personnes comme ça qui vont s'ouvrir et qui vont se dire bah, en fait il n'y a pas un sexe qui est au-dessus de l'autre et en fait on est tous égaux et on peut tous faire tous les métiers. Et en fait un homme qui veut faire de la danse, bah, moi je trouve ça cool, et puis une femme qui veut faire conductrice de camion, bah, je trouve ça cool aussi. Bah, on sera tous plus tolérants et on dira peut-être un peu mieux.
Ouais, de toute façon, si on peut le rappeler, on est tous, on a tous une part masculine et une part féminine. Donc, il faut juste savoir bien gérer tout ça. Mais donc là, dès le départ, c'est vrai que c'est très important de pouvoir l'apprendre directement aux enfants. Mais là, maintenant, dans le monde de l'entreprise, les personnes qui sont très masculins et qui ne mettent pas forcément assez en avant les femmes, comment vous faites pour agir contre ça ?
Alors, il y a des lois hein, aussi. Il faut des fois faire des rappels à la loi aux personnes, c'est bien. Quand ils se pensent intouchables et leur rappeler que ben, faire de la discrimination par le sexe, par le genre, par la sexualité ou même par la religion, ben, c'est interdit en France. Et encore heureux qu'il y a des lois qui protègent. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont assez ouverts face à moi et qui, quand ils ont eu des déviances, se sont remis dans le droit chemin. Mais en tout cas, moi j'appelle les gens à faire des rappels et à dire attention, ce que vous faites, c'est pas légal.
Ok, merci.
Merci.
Bah, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition de Talons Féminins. Je vous remercie d'avoir été présente.
Merci. À vous.
Et puis, où est-ce qu'on peut vous retrouver d'ailleurs pour les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui?
Ben, Grégory Serrandour, vous pouvez le trouver à la Maison pour l'Emploi. Et franchement, il faut y aller, il est génial. Et moi, Association Simpiode, on est basé sur Vendeuvre. Sur les réseaux, on peut me contacter sans problème.
Merci pour cette interview.
On était au Talents Féminins pour la 3e édition à l'Hôtel de Ville de Nancy et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur RCN.
Y a ma main dans la fenêtre, titanique. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been on and on back to you. C'est terrible. You make me feel good. La main sur ma taille, on s'en va dans le taxi. C'est vraiment super sexy. Dans le taxi, c'est vraiment super sexy.